Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et je reçois Aurélie Filippetti. Bonjour, vous êtes ancienne ministre de la Culture et c'est en tant qu'auteur d'un roman, Les Idéaux, qui est publié chez Fayard, que je vous reçois. Les Idéaux, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. La femme est à gauche, l'homme est à droite. Ils vont successivement participer à des gouvernements et on voit leurs idéaux se déliter en quelque sorte avec une chose qui m'a étonné. Il y a dans ce roman beaucoup d'exergues et un grand nombre de ces exergues proviennent de la Boétie, du discours sur la servitude volontaire. Et je me suis demandé de quelle servitude volontaire il s'agissait. Est-ce que faire de la politique, lorsqu'on est engagé en politique, comme le sont vos personnages, comme vous l'avez été, Aurélie Filippetti, c'est faire preuve d'une servitude?
Alors, vous savez, l'autre titre du discours sur la servitude volontaire de la Boétie, c'est le contre-un. Et en fait, il s'interroge sur les moyens de résister à un pouvoir autocratique. Ces deux personnages, ce sont deux élus de la nation, deux élus du peuple. Ils sont tous les deux députés au départ. Et lorsqu'on est député, on représente en fait la démocratie et l'Assemblée du peuple. Et face à ça, il y a un pouvoir exécutif qui est hyper centralisé et face auquel, au fond, il faut sans cesse, et on le voit surtout, c'est la Ve République accroît évidemment ce risque, mais sans cesse se battre pour faire vivre justement une démocratie réelle, c'est-à-dire qui ne repose pas dans les mains d'un seul. Et la Boétie a cette phrase que je trouve magnifique, c'est qu'il dit qu'en fait, tout ça repose aussi sur chacun d'entre nous. Et il dit, soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans le fait que, au fond, chacun se soumette, accepte, au fond, se résigne presque à ce que un seul concentre entre ses mains tous les pouvoirs. C'est cette réflexion-là qui m'intéressait.
Mais alors, puisqu'il s'agit d'un portrait extrêmement noir de la politique, un portrait où l'on peut reconnaître des événements réels, par exemple Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, est-ce une fatalité? Y a-t-il en quelque sorte une possibilité de faire de la politique en étant libre? Ou bien ce roman Les Idéaux, c'est un roman sur la mort inéluctable de ces idéaux, Aurélie Filippetti?
Les idéaux perdurent. La question, c'est comment en fait ils traversent et comment les personnages et en fait les individus traversent l'épreuve du pouvoir. C'est-à-dire comment au fond le pouvoir écrase ou affadit l'idéal politique. Comment le pouvoir, au fond, se pose ou s'oppose à la politique au sens noble du terme. Et là, c'est vrai que l'expérience, et c'est pour ça aussi que je me suis servi, je me suis inspiré de ma propre expérience et de la manière dont les 10 dernières années, en gros 2007-2017, se sont passées, c'est au fond, qu'est-ce qui fait que des hommes qui arrivent au plus haut sommet de l'État, à un moment, sont happés dans ce système qui va faire que tout ce à quoi ils s'étaient engagés au départ et pour lequel ils avaient été élus, va s'écrouler.
Mais pour le dire plus brutalement, Aurélie Filippetti, c'est le pouvoir ou ce pouvoir, ou plutôt ces pouvoirs, c'est-à-dire ceux exercés par Nicolas Sarkozy et François Hollande?
Je pense que Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont échoué, chacun à sa manière et pour des raisons très différentes.
Mais lesquelles?
Si je prends par exemple François Hollande, il a été élu sur un programme clairement de gauche, sans être pour autant évidemment un programme bolchevique, mais il a été élu et porté par une aspiration populaire à plus de justice sociale, et au bout de 5 ans, alors qu'il avait au départ tous les leviers du pouvoir entre les mains, au bout de 5 ans, on a constaté un échec retentissant. Et cet échec, il est le fruit de renoncement à mener la politique pour laquelle il avait été élu. Ça, c'est pas le fait de sa seule psychologie, de sa seule... C'est le fruit, justement, de cette expérience-là du pouvoir. Comment, au fond, il a été influencé, et évidemment, mis sous pression, comment il s'est résigné. On peut parler des différents lobbies, d'ailleurs. Nicolas Hulot n'a pas dit au fond des choses très différentes la semaine dernière quand il a démissionné. Mais les pressions qui s'exercent sur le pouvoir, si vous voulez, pour simplifier, quand vous êtes président de la République, vous avez plus souvent à votre table des gens qui payent ou qui payaient l'impôt sur la fortune que des chômeurs de longue durée.
Et il y a d'ailleurs dans les idéaux des conversations avec des gens très riches, avec
beaucoup de gens très riches, et c'est ça qui est frappant. C'est ça qui est frappant, c'est la manière justement dont, par exemple, les gens qui représentent une extrême minorité, ceux que j'appelle les inégaux, c'est-à-dire ceux qui vivent dans des conditions extrêmement privilégiées, quasiment inimaginables, comment ces gens-là, au fond, influent et occupent un pouvoir réel au-delà de leur seul pouvoir économique. Et tout le discours qu'on entend d'ailleurs aujourd'hui, ce néolibéralisme un peu triomphant, consiste à dire que finalement c'est normal, c'est naturel que ces gens-là aient autant de pouvoir. Ils l'ont mérité.
On va revenir à ça, mais parlons littérature, puisque c'est un objet littéraire, Aurélie Filippetti. Comment avez-vous écrit ce livre, puisque on reconnaît, sans en être même un spécialiste, l'histoire politique de ce pays. On peut imaginer qu'il y a beaucoup d'éléments qui proviennent de votre vie. Comment transforme-t-on son expérience, son vécu en roman? Pourquoi ne pas faire un essai?
Alors, parce que je pense que, d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Parce que je pense que la littérature touche au réel d'une manière, finalement, beaucoup plus fine que tous les essais. Je pense qu'il y a une forme d'honnêteté dans la littérature qui consiste à se poser des questions et ensuite à laisser le lecteur aussi se faire son interprétation. Une forme d'honnêteté qu'il n'y a pas dans les essais politiques.
D'honnêteté, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de faux, par exemple, dans les idéaux?
Moi, je considère qu'un roman,
je ne sais pas ce que c'est qu'un roman faux, mais je vous pose la question.
Ce que je veux dire, c'est que les essais politiques, en général, quand on parle d'essais écrits par des hommes ou des femmes politiques, sont des objets de communication. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans une stratégie de carrière. De même qu'il faut passer au matinal de France Culture, par exemple, il faut aussi, à un moment donné, écrire un essai, dans la stratégie de com classique d'un homme ou d'une femme politique, il y a un essai. Moi, c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Moi, d'abord, parce que j'aime la littérature et parce que je pense que la littérature a quelque chose à nous dire sur le monde. Et comment elle le fait? Elle le fait à travers, par exemple, la variation des points de vue, l'exploration évidemment de personnages différents qui doivent chacun avoir quand même leur chance. Évidemment, on va dire, je suis peut-être plus proche du personnage féminin de ce livre et en même temps, je me sens aussi en parfaite empathie ou compréhension avec les autres personnages que j'ai mis en avant dans ce livre. Il y a le travail sur la chronologie qui
pas
est...
ses opposants politiques.
Non, mais
vous
enfin,
les décrivez
il faut aussi...
avec
férocité. En variant les points de vue, on peut aussi donner comme ça un éclairage. Et puis en travaillant sur la chronologie, j'ai beaucoup reconstruit en fait la chronologie parce qu'il y a des choses qui au fond se déroulent dans la réalité sur des périodes assez courtes, mais qui prennent une importance. Je pense par exemple à l'épisode de Florange, qui prennent une importance, une dimension symbolique.
Il faut rappeler de quoi il s'agissait, la fin des hauts fourneaux.
C'est la fin des derniers hauts fourneaux de Lorraine. Donc c'était
dont vous
en
êtes
fait,
originaire, cette région.
Voilà, c'était ma région. Et en fait, le fait est que il se trouve que j'ai grandi là-bas et que donc j'avais assisté à la fin des mines et d'une bonne partie des usines en Lorraine quand j'étais enfant, que j'ai écrit un premier roman sur cette histoire, Les derniers jours de la classe ouvrière, que lorsque j'ai été élue députée, je me suis battue pour sauver Gandrange avec les ouvriers, les syndicalistes là-bas, donc contre Nicolas Sarkozy, et la gauche arrive au pouvoir sur la promesse qu'on va sauver Florange. Et au fond, l'une des premières décisions, très vite, au bout de 3 ou 4 mois, de François Hollande, président de la République, c'est de fermer les hauts fourneaux de Florange. Et ça reste une blessure extrêmement profonde et qui, à mon sens, a produit ses effets d'une manière finalement très 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 lente pendant tout le quinquennat. Elle en a été au fond presque le concentré, comme dans un kaléidoscope. En fait, tout était déjà visible là.
L'idée de faire de votre vie, d'une partie de votre vie, un roman, alors même que vous êtes assez dur dans ce livre, ou en tout cas vous personnage, contre les paparazzi, est-ce que ça n'est pas le risque de troubler ou en tout cas d'amincir cette frontière entre la vie privée, la vie publique, du coup, ensuite, que reprocher à ces paparazzi, Aurélie Filippetti?
D'abord parce que c'est pas l'exposition de ma vie privée. C'est une construction romanesque. Et ces deux personnages, d'ailleurs, si on voulait vraiment faire une enquête sur la véracité de tel ou tel personnage, on verrait que tout est complètement reconstruit. Ces personnages sont des constructions, des êtres de papier, d'encre et de papier. Et donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, c'est pas la vie de tel ou tel. En revanche, ce que je dis du pouvoir de l'expérience politique, ça, pour moi, oui, ça touche à une forme de réalité. Je parle pas de vérité, parce que je suis pas sûre qu'on puisse parler de vérité. Il y en a pas une seule de vérité. Donc, c'est forcément un point de vue qui est très partiel et partial. Mais en tout cas, je crois que par les moyens de la littérature, on peut donner à voir quelque chose de la réalité dans sa complexité. Parce qu'au fond, justement, on arrive à embrasser la subtilité des choses d'une manière peut-être plus fine. C'est pour ça que je parlais d'honnêteté, hein, et surtout plus libre que par n'importe quel essai. Ensuite, ce sera au lecteur de se faire son jugement lui-même en toute liberté.
Et ce lecteur, il découvrira que les idéaux sont au pluriel, ça n'est pas seulement un idéal. La servitude volontaire, elle peut s'appliquer à autre chose qu'à la politique, puisqu'il est aussi question d'amour dans ce roman. Et on peut se demander donc s'il n'y a pas également, quand vous parlez du contraint, ou en tout cas du discours sur la servitude volontaire de la Boétie, quand vous voyez la mort de ses idéaux, qu'en est-il de l'amour qui est l'autre thème, peut-être le thème principal, je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire d'ailleurs, de ce livre?
Mais pour moi, les deux thèmes sont liés. D'abord parce que je pense que rien de grand dans le monde ne se fait sans passion, mais... Parce que quand on fait de la politique, on est animé d'une passion, parce que ces deux personnages sont animés d'une passion, certes amoureuse, mais aussi d'une passion qui les réunit, celle de l'engagement politique. Et puis, pour reprendre la Boétie, c'est vrai que la Boétie, sa réflexion philosophique, sa réflexion sur le pouvoir, sa réflexion sur la résistance, elle s'appuyait aussi sur une relation très forte, une relation d'amitié, enfin de filia extrêmement puissante. Et il disait « car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire ». Je pense qu'à travers l'amour, en tout cas à travers la passion, on peut aussi apprendre quelque chose sur le monde, accéder à une forme de lucidité. Cette relation amoureuse entre, au fond, une femme de gauche et un homme de droite, c'est peut-être aussi, une forme d'allégorie de la démocratie. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie, si ce n'est de mettre ensemble, de réunir des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, qui sont en désaccord, dont on ne va pas chercher à gommer les désaccords, d'ailleurs, mais à partir desquels on va chercher à faire émerger la volonté générale, c'est-à-dire au fond la loi qui va ensuite s'appliquer à tous. Ça ne veut pas dire du tout que la gauche et la droite, par exemple, c'est pareil. Au contraire, moi je pense vraiment que les rapports de force politiques expriment au fond les conflits normaux naturels de la société, mais simplement à partir de là, toute la réflexion sur le pouvoir, c'est de consister à dire comment on fait émerger à partir de ça la volonté générale.
Enfin, je ne veux pas dévoiler l'issue des idéaux, Aurélie Philippetti.
L'issue, tout le monde la connaît. En fond, l'histoire, les gens l'ont vécu quand même un petit peu.
L'histoire collective, d'amour, l'histoire collective, celle-ci est connue. L'histoire privée, les moins, même si, comme il y a une dimension tragique dans ce roman, on comprend très vite de quoi il en retourne. Et justement, c'est une vision extrêmement pessimiste, à la fois de l'amour et de la politique. Je ne sais même pas il y a un aspect plus rose que l'autre. Rose, d'ailleurs, c'est un terme compliqué, puisque cela pourrait renvoyer à un parti politique. Mais disons que des deux côtés, ces idéaux sont très mal en point.
C'est-à-dire que voilà, la confrontation avec le réel a laissé des traces. Et que malgré tout, ils perdurent. Et au fond, leurs idéaux, au sens de voilà, ce feu qui les brûle, continue de les animer à la fin, même si effectivement l'expérience qu'ils ont fait du pouvoir a aussi, on peut le dire, consumé leur propre amour.
Il y a un autre thème, toujours dans les idéaux, ce thème c'est, je vais le dire de manière schématique, mais le thème du féminisme ou de la misogynie dans la politique, c'est un thème qui revient très souvent sous votre plume, Aurélie Philippetti.
Oui, parce que d'abord, comme toutes les femmes politiques, j'en ai fait l'expérience, hein, et que c'était Malheureusement, au fond, à chaque fois, maintenant, j'ai quand même quasiment 15 ans de vie politique derrière moi. J'ai vu que donc plusieurs épisodes. À chaque fois, on a dit cette fois c'est la dernière fois. Et au fond, ce qui a vraiment vraiment fait avancer la cause des femmes, en tout cas en politique, c'est évidemment la loi sur la parité. Donc sinon, les mentalités sont extrêmement lentes à changer. Donc je pense vraiment profondément que c'est uniquement par l'exemple, par l'accès des femmes aux postes de responsabilité qu'on arrivera petit à petit à faire changer les choses. Mais cette misogynie, elle est dévastatrice. Oui.
Et pour le reste, le fait que les rapports hommes-femmes soient souvent biaisés, des hommes insistants, ce genre de choses, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent, Aurélie Filippetti ?
En fait, les rapports hommes-femmes reproduisent des formes de rapports de domination sociale, enfin, et qui s'infiltre à tous les niveaux au fond du pouvoir. C'est-à-dire que au cœur même, on pourrait dire par exemple, je sais pas, à l'Assemblée nationale ou au sein d'un gouvernement, bon bah là on est à un niveau tel qu'il n'y aura plus ces rapports de domination. En fait, ils continuent d'exister et ils sont même encore plus sournois. C'est-à-dire, au cœur du pouvoir, vous avez des lieux qui sont encore plus.
Votre héroïne est une femme de pouvoir.
Oui, mais enfin, au cœur du pouvoir, elle se heurte à des lieux qui sont encore plus exclusifs et où là, en fait, justement, les discriminations, les marginalisations se reproduisent avec d'autant plus de force. Bon, si on prend par exemple la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est la commission traditionnellement la plus puissante, c'est là qu'il y a, comme par hasard, moins de femmes, etc., etc. Et au fond, même dans un conseil des ministres, la répartition des temps de parole, selon le protocole, fait qu'au fond, les femmes parlent beaucoup moins que les hommes en conseil des ministres. Bon, bref, tout ça continue à faire finalement persister des inégalités de genre extrêmement, extrêmement fortes.
Y compris dans le gouvernement auquel vous avez participé, gouvernement de gauche, qui se disait ou qui était, vous jugerez, sensible à ces questions-là ?
Oui, mais ça c'est parce que même s'il y avait une parité numérique qui était parfaite, ensuite, dans la répartition des postes, dans l'influence, dans le poids politique des uns et des autres, au fond, il y avait plus d'hommes que de femmes qui avaient réellement du pouvoir, une capacité d'influence réelle. Ceci dit, on a quand même fait des progrès, je vais pas le nier. Moi-même, quand j'étais ministre de la Culture, je me suis beaucoup battue pour augmenter la place des femmes dans la direction des établissements culturels, par exemple.
Ce roman que vous publiez, Les idéaux, Aurélie Filippetti, il correspond également à une étape de votre vie où, aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat électif. Est-ce que ça signifie que, pour vous, c'est une sortie de la vie politique ? C'est une mise entre parenthèses. Vous êtes aujourd'hui enseignante. Est-ce que vous comptez revenir en politique ? Est-ce que vous considérez d'ailleurs être en politique, puisque je crois que vous êtes engagée auprès de Benoît Hamon ?
Pour moi, je suis en dehors maintenant de la vie politique. Je n'ai plus de mandat et je ne souhaite pas, je souhaite plus participer au fond à la vie des partis. En tout cas, dans un horizon, je sais pas, après, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait jamais. Après, il faut jamais dire jamais, quoi. Mais enfin bon, en tout cas, là, vraiment, c'est vraiment pas, pour moi, maintenant, ma page, elle est littéraire. Et,
pourquoi?
C'est ma vie professionnelle. Mais parce que j'estime qu'il
faut. On peut faire les deux,
Il faut aussi tirer les leçons de ses propres échecs. Pour moi, l'échec du mandat de François Hollande, c'est d'abord la responsabilité du président de la République, parce que, après tout, c'était quand même lui qui l'avait porté, et donc, il doit en tirer ses propres responsabilités. Mais nous en portons tous aussi. Une part, évidemment.
Surtout les frondeurs.
Non, c'est pas les frondeurs. Je pense que, je veux dire, collectivement, la gauche, le Parti Socialiste, collectivement, mais le premier responsable, pour moi, c'est quand même François Hollande, parce qu'il avait le poste et la responsabilité la plus éminente. C'est à lui que la confiance avait été accordée. Ensuite, voilà, nous avons été battus aux législatives, donc moi j'estime maintenant qu'il faut aussi en tirer les leçons et puis passer à une nouvelle phase de la vie. Il y a d'autres manières de s'engager, de manière associative, professionnelle, personnelle. L'écriture aussi est une forme d'engagement, et pas seulement les romans qu'on dit engagés, mais toute forme de littérature.
Vous diriez que c'est
aussi
un roman engagé ?
Oui, je pense que c'est un roman engagé. Oui, je l'assume volontiers. Oui, parce que c'est un roman d'abord qui parle de l'engagement. Et voilà.
Les idéaux, le roman que vous publiez, Aurélie Filippetti. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes en compagnie d'un politologue qui publie, lui, un essai, Le paradoxe du macronisme. C'est aux presses de Sciences Po. Et là, on évoquera cette possibilité de maintenir un idéal ou cette seule possibilité qu'auraient les hommes politiques de profiter du moment qui leur est offert par la démocratie. En attendant, il est 8h sur France Culture et j'espère que vous profitez du moment. Nos deux invités, d'une manière ou d'une autre, auront quelque chose à dire sur ce que vous venez de dire, et cela rejoint en partie le livre que publie Aurélie Filippetti, Les idéaux, c'est un roman, et l'essai de Luc Rouban, qui est politologue, Le paradoxe du macronisme, c'est aux presses de Sciences Po. Aurélie Filippetti, une réaction?
Je pense que, en fait, on pâtit du fait de ne pas avoir justement de président normal. Et finalement, cette phrase de François Hollande qui lui a été beaucoup reprochée, moi, je trouve qu'elle avait quelque chose de très rassurant. Parce que tant qu'on ne s'interrogera pas sur la manière d'approfondir la démocratie, c'est-à-dire de rendre le pouvoir plus horizontal, hein, bien sûr plus décentralisé, mais aussi mieux partagé avec l'Assemblée, avec les citoyens, etc. Tant qu'on considérera que tout doit reposer dans les mains d'un homme, parce que c'est souvent un homme providentiel, je pense qu'on n'en sortira pas. Pour moi, c'est ça le problème.
Mais alors, en quoi François Hollande était-il insuffisamment normal, selon vous ?
Parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est complètement coulé dans le moule de la Ve République, dans cette forme de monarchisation, en quelque sorte, que Emmanuel Macron pousse à un point extrême, et au fond, face auquel aucun homme ne peut résister, en fait, hein, et qui en plus n'est pas bon pour la démocratie. Je pense que ce qui manque, c'est cette interrogation qui est portée par des gens, notamment comme Pierre Rosanvallon, par exemple, sur ce que c'est qu'un bon gouvernement. Comment on fait un bon gouvernement avant même de définir quelle politique on fait, mais comment, au fond, on doit gouverner. Et pour moi, c'est évidemment pas dans les mains d'un homme seul.
Votre point de vue, Luc Rouban, vous qui êtes politologue?
Eh bien, je pense que la normalisation d'Emmanuel Macron est quand même relative, parce qu'il y a une normalisation, effectivement, au sens où il va se hollandiser quelque part avec ses hésitations récentes, mais en même temps, si vous voulez, la normalité de la Ve République est donnée par le gaullisme. Or, Emmanuel Macron et le macronisme d'une manière générale ne s'inscrivent pas dans le gaullisme. Ils s'inscrivent beaucoup plus dans une logique managériale du politique, avec une très forte concentration du pouvoir au sommet. Je dirais un vrai paradoxe qui était celui d'être élu sur l'idée d'un pouvoir horizontal et en fait d'avoir concrétisé un pouvoir vertical extrêmement puissant qu'on n'avait pas vu ni du temps de François Hollande, ni même du temps de Nicolas Sarkozy, avec une évolution des entourages qui viennent beaucoup plus du secteur privé, peut-être une sensibilité accrue effectivement aux groupes de pression privés, et si vous voulez un ensemble d'éléments institutionnels et politiques qui font que, c'est vrai, On n'est pas dans la disrupture comme on l'a dit souvent, mais on est dans quelque chose de différent, mais qui ne règle pas les problèmes politiques de fond, si vous voulez. Donc en fait, la normalisation d'Emmanuel Macron est donc relative, elle est limitée, et bien entendu, la réalité reviendra au pouvoir.
Développez, je vous prie, Luc Rouban, les différences avec le gaullisme. Alors, on voit bien les différences sur l'aspect managérial, si on vous suit, hein, quand vous dites... Mais qu'avait-il le gaullisme de spécifique que les autres présidents de la Ve République n'ont pas réussi à endosser? Était-ce tout simplement le prestige, l'importance du personnage?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, vous avez la dimension historique de Charles de Gaulle, évidemment. Confronté à la Seconde Guerre mondiale, évidemment, c'est pas du tout la situation d'Emmanuel Macron. Et en revanche, vous avez aussi une évolution dans le système militaire français, c'est-à-dire que le gaullisme s'appuie quand même largement sur les classes moyennes, avec une haute fonction publique qui est largement issue des classes moyennes, et des députés qui viennent des classes moyennes. Or là, avec le macronisme, on a beaucoup plus des représentants des classes supérieures. Quand on fait la sociologie des députés, on voit très clairement.
Oui, c'est très clair dans votre livre, Le paradoxe du macronisme. On voit effectivement qu'on a affaire à quasiment un vote de classe, même si la classe est large. Frédéric Seize.
Il y a un discours qui s'impose dans les rangs macronistes, c'est cette opposition qu'il y aurait de manière quasi schématique entre les populistes d'un côté, on met toujours des guillemets à ce mot parce qu'il est un peu vague, et de l'autre côté, le libéralisme qu'il incarnerait lui, il parle de démocratie illibérale qui serait ses ennemis en pensant à Matteo Salvini, à Viktor Orban. Ce week-end, François Hollande a dit il y a une troisième voie entre libéralisme et populisme dans cette opposition qu'il trouve factice, c'est le socialisme. Évidemment, il pensait aussi à lui-même. Aurélie Filippetti, quand vous voyez ça, vous qui avez vécu de l'intérieur le quinquennat, est-ce que cette théorie brandie par François Hollande vous satisfait ?
Bien sûr, il y a une place pour la gauche, normalement, et il est dommage que François Hollande s'en souvienne après avoir été président de la République. Il aurait été bon qu'il la mette en œuvre quand il était aux responsabilités.
Il s'en souvenait, Aurélie Filippetti. À l'époque, il avait une phrase, lorsqu'on lui reprochait de ne pas être suffisamment à gauche, il disait « Citez-moi un gouvernement en Europe qui soit plus à gauche que nous. » Alors, il y avait le Portugal avec un certain nombre de réformes qui étaient censées être à gauche. Mais bref, il disait « Voilà, finalement, à l'expérience du réel et pas du pouvoir, on ne peut faire que ce que je fais. »
Ça, c'est une forme de conservatisme dans la pensée politique qui a été fatale, en fait, à François Hollande et au Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça a été une forme de résignation face aux forces telles qu'elles allaient, et notamment, au fond, à cette puissance de l'idéologie libérale qui a imprégné et étouffé l'action du gouvernement. Et c'est ça qui est terrible. Et au fond, Emmanuel Macron, il a mis en œuvre d'une manière totalement décomplexée cette idéologie libérale, celle qu'attendent les marchés financiers, celle qu'attendent certains idéologues de la Commission européenne, il faut les appeler vraiment comme ça, et donc on est dans une forme de prolongement. Et il n'y a pas eu effectivement de rupture, mais François Hollande a amené ça, malheureusement, je dois dire. Et cette oligarchie, au fond, qui est aujourd'hui au pouvoir, une oligarchie à la fois financière et aussi technocratique, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, si on considère que d'un côté, il y aurait soi-disant des autoproclamés progressistes, mais qui ne représentent que cette oligarchie, et de l'autre côté, les populistes, mais les classes populaires, elles vont aller où ? Elles vont voter pour qui, les classes populaires ? Ensuite, on va leur reprocher de se porter vers des forces démagogiques. Enfin, c'est quand même un drame. Si on ne fait rien pour les classes populaires en termes concrets, de politique réelle, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'elles se portent vers des mouvements comme ça.
Luc Rouban.
Oui, c'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui quand même... Alors, je suis en partie d'accord avec ce qu'a dit Aurélie Filippetti. Cela étant, je pense que... Si vous voulez, l'opposition entre élitisme et populisme est un petit peu factice. Parce que dans le macronisme, vous avez un mélange des deux. D'ailleurs, Emmanuel Macron est élu sur l'idée qu'il faut renverser le système.
On a parlé d'un populisme d'en haut pendant la campagne.
Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment l'idée de se débarrasser de tous ces vieux cumulards, de l'ancien système des partis, etc. Donc il y a du populisme. Mais d'une manière plus générale, si vous voulez, on voit émerger maintenant une interprétation de la vie politique qui scinde un peu le monde en deux. Donc il y aurait la société ouverte contre la société fermée, il y aurait ceux de nulle part et ceux de quelque part. En fait, c'est plus compliqué que ça. Quand on fait des analyses de sociologie politique, on voit bien qu'il y a deux types de fermeture. On peut être ouvert ou fermé de gauche et de droite, on peut être ouvert aux capitaux et pas ouvert aux migrants. Donc c'est pas du tout la même chose.
Alors justement, Luc Rouban, parce que dans le paradoxe du macronisme, vous analysez l'élection d'Emmanuel Macron et vous dites deux choses. Je vais essayer de résumer votre livre à grand trait. Vous dites, premièrement, on a beaucoup dit que Emmanuel Macron avait été élu sur un renouvellement politique. Pas du tout. En fait, il a profité du fait qu'il y avait une inadéquation entre l'offre et la demande politique. Et vous allez nous expliquer ce que ça recouvre. Et puis, deuxièmement, Emmanuel Macron, en fait, il rassemble des électeurs qui appartenaient à des familles anciennes. C'est pas mal d'appartenir à des familles anciennes. Mais si je voulais le dire de manière très schématique, je dirais que le macronisme, c'est un juppéisme qui a réussi. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire par le paradoxe macroniste.
Il y a plusieurs paradoxes dans le macronisme. Le premier paradoxe pour moi, c'est évidemment le fait que Macron et le macronisme se présentent comme en fait le fruit d'une convergence d'une majorité de Français vers un centre libéral, pro-européen, pro-mondialisation, high-tech, branché. Or en fait, le clivage gauche-droite est extrêmement puissant, même en 2016 et en 2017 et en 2018. On le voit très clairement dans les enquêtes du CVPOF notamment. Donc, si vous voulez, en fait, on assiste à une reconstruction un petit peu mythique, un récit de reconstruction a posteriori, qui est intelligemment mené, d'ailleurs, par La République en Marche. Mais en réalité, le macronisme est plutôt le fruit de la fracture sociale, mais c'est vrai aussi de la déstructuration du vote de classe. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, on voit apparaître un vote de classe en termes dynamiques, en termes de mobilité sociale, qui remplace le vote de classe habituel, c'est-à-dire les ouvriers habituellement votant à gauche jusqu'à une date relativement récente, les cadres plutôt vers la droite, etc. Donc effectivement, Emmanuel Macron se positionne sur cette question de la mobilité sociale, qui touche beaucoup les classes moyennes, qui effectivement va parler une partie de son électorat, mais globalement, son électorat est un électorat par défaut. Donc vous dites que c'est un juppéiste, ou c'est un Juppé qui aurait réussi. Pas vraiment, parce que...
Je le dis parce que dans votre livre, vous notez les affinités électives entre l'électorat de Juppé et l'électorat de Macron.
Oui, non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est si vous voulez les éléments structurels ou les éléments caractéristiques qui définissent l'électorat d'Emmanuel Macron, qui est quand même plutôt un électorat bourgeois, diplômé, finalement, je dirais assez libéral sur le plan économique, mais pas trop.
Et pas trop sur le reste. Mais et ça décrit quand même très bien la plateforme de départ d'Alain Juppé.
Ah oui, tout à fait. Mais voilà. Si vous voulez, même Alain Juppé fait sa construction politique. Donc si vous voulez, tout ça est très fragile sur le plan électoral. Et donc ça demande une construction permanente de la part du macronisme.
Ce que l'on ne comprend pas dans ces conditions, dans cette période aussi que traverse la France, Luc Rouban, on voit bien à droite une offre politique qui existe, notamment à l'époque de l'élection présidentielle. Elle a été représentée par un certain nombre de candidats ou de candidats à la candidature. C'était quelque chose donc d'assez complet. Pourquoi la gauche, qui, dites-vous, existe toujours dans l'opinion, n'existe pas, ou en tout cas pas autant que ce qu'elle voudrait, dans les urnes ?
Ah oui, c'est une question tout à fait essentielle. Si vous voulez, on a assisté à deux phénomènes. On a un phénomène de déphasage entre l'offre et la demande politique.
Il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire.
Ce déphasage, ça veut dire tout simplement qu'en fait, vous avez une grille de lecture en termes de libéralisme économique et de libéralisme culturel, que la gauche est anti-libérale sur le plan économique, elle est libérale sur le plan culturel, et c'est globalement la majorité des Français qui se retrouvent dans cette équation, si vous voulez, alors que le macronisme, c'est du libéralisme culturel et du libéralisme économique, et là, ça réunit grosso modo 6% de l'électorat. Mais le problème, c'est la
donc
traduction.
Donc, c'est pas assez. 6%.
Ah non, ça demande, mais oui, bien entendu, ça demande une construction permanente et c'est pour ça que le macronisme est fragile sur le plan électoral. D'ailleurs, on va bien voir ça au moment des européennes et encore plus au moment des municipales. Donc, si vous voulez, mais alors, pour répondre plus précisément à votre question, le problème, si vous voulez, c'est que vous avez effectivement, du côté de la gauche, un événement très important que constituent les primaires et, je dirais, le défaut de François Hollande. Parce que là, effectivement, on n'est plus dans une séquence normale. C'est-à-dire que François Hollande, dans les conditions normales de la Ve République, aurait dû se représenter. Et vous avez aussi quand même le fait qu'Emmanuel Macron, après avoir certifié et juré tous ces grands dieux qui ne se représenteraient pas, se présente quand même. Donc vous avez une situation extrêmement compliquée, et où vous avez aussi la France insoumise qui monte, qui réunit un populisme de gauche, qui absorbe à lui seul pratiquement aussi l'électorat de Benoît Hamon.
Mais non, je veux pas vous entrer dans la politique fiction, mais tout de même, si François Hollande s'était représenté, je me demande pas s'il aurait été élu ou pas, est-ce que cela aurait changé sur la représentation de la gauche dans les urnes, Luc Rouban ?
Ah, sans doute, oui, sans doute.
C'est très difficile. Donc il a eu tort.
Ah oui, je pense. Je pense qu'une candidature de François Hollande aurait de toute façon barré la route à Emmanuel Macron. Parce que le problème, si vous voulez, c'était de développer un socialisme social-démocrate.
Mais alors ça, Hollande le dit lui-même.
Ben oui, donc on est bien d'accord.
Il le dit lui-même, vous êtes d'accord avec François Hollande. Parce qu'il dit, si je m'étais présenté, Emmanuel Macron aurait été battu.
Oui.
Aurélie Filippetti.
La question, c'est qu'il n'a pas pu se représenter. Il a fait le choix de ne pas se représenter parce que, précisément, il n'avait pas réunis pendant 4 ans et demi les conditions pour créer une confiance autour de lui et au sein de l'électorat de gauche. Il faut se rappeler quand même qu'il y avait une vraie désaffection, une vraie même un désamour profond vis-à-vis de François Hollande dans l'électorat de gauche. Donc après, on peut se dire que, oui, sur le papier, hein, théoriquement, le président sortant de gauche aurait dû se représenter, évidemment, mais la réalité, c'est qu'il s'est mis lui-même dans la situation où il ne pouvait pas le faire. Et il ne peut en faire le reproche qu'à lui-même.
Frédéric Seitz.
Aujourd'hui, on voit les difficultés qu'on évoquait pour Emmanuel Macron. Et pour autant, de manière paradoxale, les autres partis, les oppositions, comme on dit maintenant, ne sortent pas vraiment la tête de l'eau. Il n'y a pas d'alternative très puissante qui semble, pour l'instant, émerger. On n'est qu'à 16 mois après le début du mandat d'Emmanuel Macron. Selon vous, Aurélie Filippetti, est-ce que ça se traduit par une sorte de vide politique ? C'est un risque ou une sorte d'apathie généralisée ? C'est ça le risque ?
Oui, pour l'instant, effectivement, on ne voit pas émerger de forces qui qui puisse justement faire occuper cet espace et cette attente, hein, parce que moi je pense qu'il y a une attente quand même. Hein. Mais c'est parce qu'au fond, effectivement, maintenant la politique c'est beaucoup du récit, c'est beaucoup du storytelling, et que donc il faut raconter des histoires. Emmanuel Macron a raconté une très belle histoire, et il l'a très bien raconté au moment de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, François Hollande est en train de raconter, de réécrire sa propre histoire. Et voilà, du coup, on est dans une concurrence des récits. Mais pour l'instant, il n'y a pas un récit d'une force nouvelle qui viendrait justement offrir une ouverture.
Justement, je dirais pas tout à fait la même chose. Parce que je vois quand même, et on a vu quand même dans les enquêtes, on a fait, vous savez, au Cevipof, on a fait une grande enquête électorale avec 25 000 personnes qu'on a suivies pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a observé la droitisation de l'électorat sur le terrain des valeurs culturelles et notamment de l'immigration.
Et ça, c'est un fait marquant, y compris dans l'électorat de gauche, d'après les chiffres.
Absolument.
Que vous... Il faut donner des exemples, plus courant.
Si vous voulez, je ne vais pas reprendre les chiffres, parce qu'en plus, je ne les ai plus en tête, mais si vous voulez, on voit bien, si vous voulez, en termes de rejet de l'immigration, que ce rejet croît sensiblement sur une dizaine d'années.
Alors, c'est ma supériorité sur vous, j'ai les chiffres sous
les
yeux.
Il a les chiffres sous les yeux.
Y compris dans l'électorat de gauche, disons que le rejet de l'immigration, avec différentes modalités, il va séduire 25% de cet électorat. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans les franges de droite où ce rejet il va aller jusqu'à 65, 70, 80% en fonction des items que vous testez. Mais ce que l'on voit très clairement dans votre livre « Le paradoxe du macronisme », c'est qu'en fait, un certain nombre d'idées qui étaient jadis réservées à la droite dure, la droite extrême, sont aujourd'hui profondément diffusées dans l'électorat, avec un bémol quand même, parce que ça aussi c'est important dans votre livre. Vous dites, avec les chiffres dont vous disposez, qu'il y a une physionomie profondément différente entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen.
Ah bien sûr, on assiste en fait à l'émergence de deux populismes. On a un populisme de gauche et un populisme de droite.
Alors pourquoi les qualifier de populisme dans ce cas-là, si leur physionomie est différente ?
Ah mais parce qu'ils participent quand même d'une même grille, si vous voulez, de lecture théorique, c'est-à-dire anti-européenne, nationaliste, protectrice, mais avec une différence essentielle qui fait que le Front National, enfin le Rassemblement National, est plus, disons, plus proche du véritable modèle théorique du populisme, à savoir une position anti-élite, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise, bien au contraire. Donc si vous voulez, vous avez des différences très importantes qui vont se traduire par le fait que dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, vous avez beaucoup plus de diplômés que dans l'électorat de Marine Le Pen. Et là, vous avez une différence sociologique très importante et on ne peut pas, si vous voulez, assimiler les deux populismes qui d'ailleurs, sur le plan théorique, comme je le disais, ne peuvent pas être confondus.
Mais alors, ce que l'on voit mal, Luc Rouban, au terme de votre analyse, on se dit finalement, Emmanuel Macron a raison de gouverner comme il gouverne. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir une attitude fermée, je dis les choses très schématiquement, fermée vis-à-vis des migrants, plutôt autoritaire, plutôt dure à l'encontre des journalistes parce que c'est un bon marqueur dans l'opinion. Bref, il a raison de faire tout ça et pourtant, on a l'impression que ça marche peu ou ça marche mal. Pourquoi ?
Parce qu'il est trop libéral sur le plan économique. Alors que les Français défendent le service public, défendent les fonctionnaires. Vous n'avez qu'une minorité de Français qui veulent voir le nombre de fonctionnaires diminuer, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et c'est un chiffre permanent depuis des dizaines d'années. Donc en fait, vous avez trop de libéralisme économique. Et c'est vrai qu'il a un peu surpris aussi, même son électorat, même si cet électorat était par défaut, dans le fait qu'il est passé d'une position, disons, centriste à une position droitière. Et là, vous voyez émerger
droitière
quand même...
Sur les mœurs. Ça n'est pas réellement sur les mœurs.
Sur l'économie, surtout.
Ça, c'est clair, mais je veux dire aussi sur des questions telles que la question des migrants qui est un marqueur, la question des demandeurs d'asile, la question donc encore une fois de l'attitude par rapport à ce qu'il appelle le milieu parisien, parce que évidemment aucun homme politique n'appartient au milieu parisien, Aurélie Philippetti, vous le dites bien d'ailleurs dans votre livre.
Oui mais... Le problème, c'est que si vous êtes à la fois libéral économique et en même temps antilibéral sur le plan de l'immigration, pourquoi voter Macron ? Vous allez voter Wauquiez. Hein ? C'est ça le véritable enjeu de l'avenir maintenant.
On peut le dire à l'inverse aussi. Pourquoi voter Wauquiez si Emmanuel Macron s'empare des thèmes qui constituaient le cœur de l'électorat de l'UMP ?
Oui, très juste. On pourrait penser l'inverse, mais je pense que quand même on assiste à l'émergence d'une force de droite avec un véritable enjeu qui est celui de la convergence entre le Rassemblement National et les Républicains, parce que c'est là que ça va se jouer, si vous voulez. Et on peut penser aussi que cet électorat qui est antilibéral sur le plan culturel va estimer que Macron l'est quand même trop libéral. sur le plan culturel.
Aurélie Filippetti, comment voyez-vous l'avenir? Parce que donc vous dites que vous êtes retiré de la vie politique, mais pas définitivement, enfin bref.
Ah si, 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 définitivement. Bah, je dis, il ne faut jamais comme, dire Fontaine, comme Lionel parce Jospin, que je ne sais pas comme... dans 10 ou 15 ans, voilà, mais aujourd'hui, oui, bon,
aujourd'hui, vous l'êtes. En dehors malgré de tout, vous avez apporté votre soutien à Benoît Hamon.
Oui, parce que j'estimais que voilà, sa démarche était très novatrice sur le plan des idées, et en particulier tout ce qu'il a développé sur la crise environnementale, la crise écologique, qui est la question majeure quand même.
Pourquoi ça ne fonctionne pas déjà ? Pourquoi ça ne fonctionne pas au gouvernement ? Pourquoi tant de démissions de ministres de l'écologie, alors même que beaucoup de gens en France sont persuadés de la réalité de cette crise écologique ?
Parce que, en fait, l'échec, c'est de ne pas faire le lien entre la crise écologique et la crise économique, entre le creusement des inégalités économiques et l'aggravation de la crise environnementale. Parce que évidemment qu'il y a un lien. Évidemment que tout le monde n'est pas logé et ne sera pas logé à la même enseigne face aux crises environnementales qui vont se multiplier. Et que si on continue à considérer que les inégalités finalement économiques se creusent et que c'est finalement le fruit simplement des inégalités naturelles, eh bien on va sacrifier une partie de la population mondiale sans se préoccuper de la manière dont elles vont résister aux crises environnementales. Ça, et ce lien-là, il est très difficile à faire. Mais en gros, c'est ce que disait Hulot quand il a dit, enfin voilà, la crise environnementale n'est, enfin, affronter la crise environnementale, ce n'est pas compatible avec le libéralisme économique.
Même question, Luc Rouban, oui. On comprend mal pourquoi l'écologie paye si mal sur le plan politique, alors que encore une fois, beaucoup de gens sont aujourd'hui persuadés de l'urgence d'une politique à mener dans ce domaine.
Je pense que c'est lié à son histoire politique, à son, je dirais, à ses racines qui plongeaient quand même dans l'héritage de 68 et dans le gauchisme. Et si vous voulez, le fait que les Verts, pendant longtemps notamment, ont été quand même un des fleurons du gauchisme, ont fait que c'est un fait qui explique, dans le fond, je dirais, une forme de rejet, parce que c'était associé à l'extrême-gauche, donc un peu à l'utopie, à quelque chose qui n'était pas très réaliste, qui ne s'inscrivait pas dans le déploiement des politiques publiques ordinaires, dans le budget de l'État. Donc tout ça, c'était un petit peu du domaine de la philosophie, des doux rêveurs, vous savez, Barbu, c'était Larzac, etc. Et donc ça, je crois que c'est un petit peu le poids historique de l'écologisme en France, et ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, effectivement. Et ils ont des porte-paroles qui, effectivement, comme Daniel Cohn-Bendit par ailleurs, qui sont aussi les représentants de mai 68, et historiquement, qui sont quand même
qui ont évolué quand même.
Alors, qui ont beaucoup évolué, comme beaucoup d'anciens gauchistes, qui ont plus ou moins rejoints, je dirais, qui se sont recentrés, disons, pour le dire poliment. Voilà.
Aurélie Filippetti.
Pendant longtemps aussi, l'Europe a été un vecteur de progrès en matière environnementale, de manière très très nette. Et depuis, disons, 2005, avec la crise de confiance dans l'Union européenne, dans la construction européenne, c'est vrai que même ce que l'Europe avait pu apporter de positif pour la protection de l'environnement, eh bien du coup, c'est un petit peu entaché justement de soupçons de la part des citoyens et notamment des classes populaires, parce que l'Europe a par ailleurs une position trop libérale d'un point de vue économique.
Luc Rouban, est-ce que aujourd'hui la situation de l'exécutif, puisque on voit bien que les exécutifs sont populaires le temps que durent les roses, et les roses durent parfois quelques mois, parfois un an, 16 mois, dit Frédéric Seitz. Mais en tout cas, on voit bien que ces durées sont limitées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe du macronisme qui se déchire, avec donc une désillusion d'une partie de ses électeurs, ou bien est-ce aujourd'hui le sort de tout homme politique ?
Non, ce n'est pas nécessairement le sort de tout homme politique, parce que vous avez des hommes politiques comme Angela Merkel en Allemagne qui quand même perdurent un certain temps, en tous les cas plus longtemps que la notoriété de certains présidents de la République en France. Donc si vous voulez, c'est peut-être plus un phénomène aussi, un mécanisme, comme le disait Aurélie Filippetti, de proximité aussi au personnel politique. Et il y a un problème de sociologie, de sélection du personnel politique en France qui n'est pas du tout réglé, avec aussi des pratiques qui ne sont pas celles, je dirais, ordinaires de la démocratie parlementaire qu'on peut trouver en Europe. Mais en même temps, si vous voulez, je dirais que Emmanuel Macron est quand même très très prisonnier de son histoire politique personnelle, c'est-à-dire qu'il a une trajectoire qui, effectivement, pour reprendre la tribune précédente, risque de le transformer, oui, d'astéroïde en étoile filante. Donc c'est possible, hein, c'est peut-être son destin.
Donc vous êtes plutôt pessimiste?
Oui.
Aurélie Filippetti, je ne vous demande pas si vous êtes pessimiste sur le sort d'Emmanuel Macron. Je vais vous demander en revanche si la fin des idéaux, c'est une fatalité en politique.
Non, pas du tout. Non, non, je considère justement que
vous
les idéaux
sont... Vous en êtes
sorti. Non, mais je conserve par ailleurs mes idéaux, mes convictions. Et voilà, je considère que... Je continue de penser d'ailleurs que la politique, c'est un engagement noble. Que voilà, c'est quand même une... C'est... À la base de toute société, il y a cette interrogation sur voilà comment on va vivre ensemble. Donc ça, il faut surtout pas lâcher ça. Après, l'expérience et la pratique du pouvoir, il y a aussi des contrefeux par rapport à ça. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne est un régime parlementaire, par ailleurs très décentralisé, et ça fonctionne beaucoup mieux.
Aurélie Filippetti, Les idéaux, c'est votre roman, publié chez Fayard. Luc Rouban, Le paradoxe du macronisme, c'est publié aux presses de Sciences Po.